tu as dit qu'il écrivait avec Jean Marbeuf, du moins il était conseiller historique, et je crois, du point de vue des dialogues et autres, il a été constamment là, du moins constamment conseiller sur le tournage, pour le film. Donc Féraud, disons, s'est investi dans ce projet, a aidé à l'écrire. Mais effectivement, l'idée de Marbeuf, c'était à partir du bouquin de Féraud, au départ.
Et puis le développement qui en sort, c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui est politiquement au courant, qui s'intéresse à cette période-là, tout simplement parce que c'est l'histoire, et c'est notre histoire, une histoire un peu sombre, et qui a peut-être des redéveloppements maintenant, aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que le film marche, fonctionne, aux dates historiques, certaines dates historiques, l'entrée des Allemands, l'installation à Vichy, avec des choses rigolotes d'ailleurs, parce qu'à un moment, ils discutent de voir si c'était Vichy ou une autre ville, et puis il y a quelqu'un au gouvernement, je ne sais plus qui dit « Oh non, non, pas Vichy, ça va être un gouvernement de casino. » C'est la seule pointe d'humour que j'ai envie dans le film. Mais c'est vrai que le film marche de manière pédagogique, c'est-à-dire qu'on a des dates, on a des faits, et puis par petits blocs comme ça, ça avance. Le seul point qu'on peut retenir, qui est très positif par rapport au film, c'est le dernier carton du film, où il dit texto, une seule phrase, lapidaire, noir sur blanc, c'est le procès du fascisme. Le gouvernement Vichy n'a jamais été encore fait. Le film se termine là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce film a été fait pour cette génération qui manque de culture historique.
Oui. Et je crois que dans ce domaine, on nous dit souvent qu'il y a des exactions policières, je sors du sujet, mais ça ne va plus faire revenir, qu'on dit que la France, elle a une police à son image. Et je crois qu'à l'époque, en 1940, la France profonde, je dis ça avec une expression teintée de mépris, a eu un pouvoir à son image dans la mesure où il y avait eu tous les abandons possibles, où ce qui comptait, c'était d'avoir la vie sauve, où personne en 39-40 n'avait fait la guerre au régime nazi mais la guerre aux Boches, ce qui n'est pas du tout la même chose, et que finalement, quand il y a eu l'occupation, finalement on a trouvé que ces Allemands, on disait plus les Boches, étaient bien sympathiques, qu'ils ne nous emmerdaient pas trop. Et que tout, à mon avis, tout se serait bien passé si les Allemands avaient eu les moyens ou l'intelligence de ne pas instaurer de système de rationnement alimentaire. Alors, quant à ce qui s'est passé dans le même temps dans la zone dite libre, il est sûr qu'il y a eu à ce moment-là le déchaînement d'un certain nombre de comportements revanchards venant d'une droite relativement... encadré depuis un certain nombre d'années, venant d'un clergé qui ruminait sa vengeance depuis l'affaire Dreyfus. Tout ça a éclaté en même temps, ce qui fait qu'il y a eu de la surenchère réactionnaire en zone sud, et qu'au fil des mois, on a vu se développer un pouvoir de plus en plus fasciste, de plus en plus totalitaire en tout cas. Alors, il n'est pas évident que dans le film, on a cette sensation, je ne sais pas, mais il est sûr que de Flandin à Laval, en passant par Darlan, il n'y a peut-être pas eu cette perception de l'aggravation, finalement, de la situation. Il y a eu cette perception en zone nord, quand on a vu débouler la milice, et on l'a vu de quelle manière, quand on a commencé à crever de faim un peu plus qu'en zone sud, quand il y a eu la chasse aux ouvriers, quand il y a eu la STO, et où la résistance s'est peut-être constituée du fait qu'il y avait le refus de partir travailler en Allemagne, mais en dehors de ça, politiquement, il n'y avait pas de prise de conscience en dehors de petits groupes plus que minoritaires, bien qu'on nous raconte maintenant une histoire magnifiée.
Début de la résistance.
Moi, j'ai l'impression qu'un film sur Pétain, il faut que ça montre la machine, le pétainisme et non pas Pétain. Ce dont j'ai peur quand on fait un film qui s'appelle Pétain, moi, j'ai pas vu le film, je vais aller le voir.
Le pétainisme, c'est l'environnement, oui, c'est pas Pétain lui-même.
Voilà, j'ai pas encore vu le film aujourd'hui, je vais aller le voir demain ou après-demain. Voilà, c'est ça, c'est pas Pétain en lui-même, moi, j'ai rien à faire de Pétain, c'est une machine ou la nature d'un système politique qui permet qu'un système tel que le pétainisme existe et se mette en marche. Comment en France, on a pu arriver à la collaboration, et à la collaboration et l'antisémitisme à ce point, c'est-à-dire pourquoi en France, par exemple.
Parce qu'on sait dès le départ, finalement, et dans la France de Vichy, parce que la France de Vichy, ça va du nord au sud, mais c'est essentiellement quand même cette partie du sud, les 2/5 de la France, où il y a ce gouvernement de Casino, où on sait dès le départ quelle sera la direction qui va être suivie. On s'aperçoit que dès l'été 1940, quand sous l'égide de Pétain se constitue la fameuse légion des volontaires. La légion qui sont les anciens combattants de 14.
Ouais, ouais.
Et qui finalement est conçue comme un large parti de soutien à Pétain. Cette légion, elle est dirigée par Xavier Vallat. Voilà. Et Xavier Vallat, faut jamais oublier que c'est l'homme qui en mai 36, à l'Assemblée, quand il y a le débat d'investiture de Léon Blum, va se lever de son banc et puis s'adressant aux députés, va dire pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Donc, quand on voit Xavier Vallat nommé à la tête de cette cohorte d'anciens combattants de 14, d'où sortira ultérieurement la milice d'ailleurs. On ne peut pas ne pas comprendre tout de suite ce qui va se passer, en tout cas pour ceux qui ont un minimum de mémoire politique. Mais la mémoire politique, elle disparaît, parce que le 10 juillet 1940, il y a une France parlementaire en colique, à l'exclusion des communistes qui sont en tôle ou en fuite, qui va voter les pleins pouvoirs à Pétain, et qui abandonne tout, aussi bien les syndicalistes, comme Bellin ou d'autres, que les députés socialistes, qui vont voter pour Pétain. Et parmi les 80 qui votent contre Pétain le 10 juillet 40, quand l'Assemblée se réunit, il n'y a pas que des socialistes dans les 80. Il y a des radicaux, et même des radicaux de droite.
Parce que dans le film, ça c'est bien, c'est peut-être une des scènes les plus réalistes, où on a justement cette assemblée un peu fantoche, puisque ça se passe dans un casino, une scène de casino, théâtre d'un casino, et c'est vrai que toutes les tendances d'avant la guerre, si on peut dire, puisqu'on est en plein armistice, sont réunies là. On a donc Blum, on a tout un tas de gens qui sont là, des figures historiques de la France, et le film va plus dans une direction un peu manipulatoire de Laval. On a l'impression que c'est Laval, qui manipule tout ce bas monde pour donner les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est vrai que les quatre personnes sont citées dans le film, leurs noms sont cités dans le film, comme ayant refusé les pleins pouvoirs à Pétain.
Et c'est pas pour agiter des rancœurs personnelles au sein de, je le mets entre guillemets, ma communauté d'origine. On voit des gens comme le sénateur Pierre Masse, l'avocat Pierre Masse, qui va être déporté de Compiègne 2 ans plus tard, votera les pleins pouvoirs à Pétain, par exemple. Sinon, c'est pour montrer un peu cet unanimisme, finalement, où brusquement on redécouvre un bonhomme, parce qu'on a l'occasion d'avoir sous la main un chef vénéré, entre guillemets. Alors c'est Pétain, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais Pétain, il est décoratif. On pense qu'à son âge, il n'emmerdera personne, qu'on pourra lui faire dire tout ce qu'on veut, qu'on pourra le travailler un peu partout, qu'on déclenchera l'enthousiasme des foules. Et sur le nom de Pétain, va se construire une politique xénophobe et raciste avec Alibert, une politique dure sur le plan de l'idéologie qui sera finalement à deux reprises jusqu'au 13 décembre 40 mise en route par Laval et reprise par lui quand il reviendra au pouvoir quelques 18 mois plus tard. Tout ça fonctionne, tout ça en place dès le début. Et les gens qui disent Vichy été 40, c'est pas Vichy 43, c'est pas sérieux. On sait dès le départ ce qui va se passer. On sait déjà, je sais pas si dans le film ils en parlent, qu'en zone sud, en août-septembre 40, il y a déjà 40 000 juifs étrangers enfermés dans les camps d'internement. On sait déjà, parce que la clause de l'armistice le prévoit dans l'article 19, que tous les réfugiés allemands en France vont être livrés à l'Allemagne par Vichy. On sait déjà tout ça, mais ça ne pèse pas d'un point important. Tout le monde s'en fout dès l'instant que la guerre est terminée, qu'on a la vie sauve et qu'on est persuadé d'une part que l'Allemagne va gagner la guerre, pour ceux qui s'en foutent vraiment complètement, et pour les inquiets, qu'on en a pour 25, 30, 40 ou 50 ans, et puis qu'il faut laisser passer l'orage. Il est travaillé au corps. Et on lui fait dire le contraire de ce qu'il veut dire. Et puis,
Oui, parce que dans le film, souvent, dès le début, peut-être au bout de la troisième apparition de Jacques Dufilot-Pétain, on voit derrière lui se profiler l'ombre d'un médecin que tu connais, tu vas dire qui c'était, qui s'appelle Ménétrel, je crois, et qui n'arrête pas de lui injecter des produits comme un coureur cycliste, presque.
Alors il est sous influence chimique, si on peut dire, et en même temps sous influence morale. Pas forcément pour le modérer, hein. Il ne faut pas oublier que Pétain, il avait été ministre de la guerre dans les années 20, pendant la guerre du Rif, je crois, et puis qu'il n'avait qu'une ambition de devenir ministre de l'Éducation nationale pendant que la jeunesse au pas.
Comment on peut maintenant, ce sera peut-être une dernière question, comment on peut donc revisiter cette période sombre de l'histoire française et voir comment on peut aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a lieu un débat donc à l'Assemblée nationale, ce débat sur le cas de la nationalité, comment on peut relier cette histoire à ce qu'il y a aujourd'hui? Donc Pétain et puis le code de la nationalité.
La loi qui existe.
Alors ça va, on peut y aller.
Bien.
On pose la question.
Hein. Oui, c'est posé la question. C'est tout. C'est pas grave, là. On reprend. Attends. Ce qui serait intéressant pour continuer un peu le débat, c'est que voir un peu cette histoire là, de Vichy, les livres de Féraud, de Paxton, le film de Marbeuf, mais plus près de nous, donc tout à l'heure, à l'Assemblée, c'est le débat sur le code de la nationalité. Comment on peut relier ces deux périodes historiques?
Oh bah, très simplement, à partir de l'été 1940, a été envisagé de retirer la nationalité française à un certain nombre d'étrangers, et puis très rapidement, ont perdu la nationalité française les Juifs algériens, qui étaient citoyens français depuis la loi Crémieux de 1870, qui sont redevenus des sujets français à partir du mois de septembre 1940. Ensuite, tous les Juifs immigrés d'Europe de l'Est, arrivés après 1936, ont perdu leur nationalité française. Alors je pense que c'est important de rappeler ça à un moment où on nous explique que les jeunes de l'immigration nés en France devront faire un acte volontaire et déterminé pour demander qu'on leur accorde la nationalité française, en nous expliquant tout de suite que si parmi eux il y a des petits mecs qui ont eu 6 mois de tôle, ils n'obtiendront pas la nationalité, ils sont nés en France, on se demande où on va les renvoyer, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a, s'il y a cette menace contre les jeunes issus de l'immigration nés en France, il n'y a pas de menace contre leurs parents. Parce que les jeunes de 20 ans ou 18 ans qui vont demander la nationalité française, leurs parents sont en France depuis 20, 25, 30 ans. Ceux-là sont établis, ont travaillé ici, ont participé au développement industriel de la France à une certaine période, et apparemment personne ne les menace. Ce qu'ils visaient, c'est la jeunesse. Et c'est important de relier précisément ces deux faits sur ces deux périodes à un peu plus de 50 ans de distance, où il y a déjà, au départ, même si les régimes ne peuvent pas être comparés, la volonté d'exclure, à l'époque des Juifs, maintenant des Arabes, pour employer un terme commode et rapide.
Il reste beaucoup. Alors, sur l'antisémitisme proprement dit, d'abord, l'antisémitisme du régime, comment s'est-il manifesté? Et puis, l'antisémitisme en France, à ce moment-là, comment se sont comportés les Français? Est-ce qu'il y avait une tradition antisémite?
Ou pas? Bon, il y a deux aspects. Il y a l'aspect réglementaire du gouvernement de Vichy, mais qui est un aspect réglementaire toujours commenté de façon relativement haineuse. Hein. Donc il y a la mise en place d'un certain nombre de lois et de décrets sur la mise à l'écart des étrangers en général dans certains secteurs à partir de l'été 40, et puis très vite donc le statut des Juifs d'octobre 1940, l'interdiction d'exercer, l'interdiction de certains métiers, l'interdiction d'être fonctionnaire, Ça s'est fait très rapidement. Il y a eu une batterie de décrets qui sont arrivés très vite. Il y a eu, au mois de mars 1941, la mise en place d'un commissariat général aux questions juives. Les différents trafles dont je parlais tout à l'heure en mai, août et décembre 1941. Et puis en 1942, alors il y a eu, enfin, il y a eu aussi, j'oubliais au passage, le deuxième statut des juifs du mois de juin 1941, qui a été implicitement approuvé par le Vatican. Et Léon Bérard, ambassadeur de Pétain au Vatican, pouvait dire très tranquillement, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de reproches qui vous seront faits par l'Église. Donc là c'est l'aspect administratif et réglementaire, sous le couvert d'autorité morale, où on explique, on fait de la pédagogie, où on explique aux Français que depuis des temps immémoriaux, au moins depuis 50 ans, la France est mise à genoux par les juifs. Ça, c'est en zone sud. Mais en même temps, ça... Non pas ça excuse, ça conforte ce qui va se passer en zone nord, où les ordonnances allemandes vont commencer par désigner les juifs avec l'étoile par une ordonnance du 29 mai 1942, et ensuite toute cette batterie d'ordonnances qui interdit la présence dans les lieux publics, c'est-à-dire cinéma, piscine, théâtre, parcs et jardins publics, enfin, j'en passe des meilleurs, obligation d'être en wagon de queue du métro, etc. Donc ça commence avec le statut des juifs, l'obligation de se déclarer en octobre 40, pour aboutir à la désignation par l'étoile, et puis au rafle de masse, y compris les enfants. Quant à la population française, moi je pense, on me dit que je suis toujours un peu excessif, je pense que jusqu'à l'été 42, il n'y a pas eu de réaction de la population française. La population ne s'est pas sensibilisée, et quand on a commencé à croiser en juin 42 des porteurs d'étoiles jaunes, on détournait la tête plutôt que d'essayer de consoler quelqu'un, consoler est un mot déplaisant, ou en tout cas d'être solidaire. C'est quand il y a eu les premières grandes rafles en zone nord en juillet 42 et en zone sud en août 42 qu'il y a eu certains comportements beaucoup plus solidaires. Et puis à côté de ça, des comportements charitables, tout à fait déplaisants parce qu'on a profité des circonstances pour convertir et baptiser des milliers de monde. Et pas forcément seulement pour les sauver. Alors, je crois que la France profonde, on ne va pas dire qu'elle était spécialement antisémite. La France profonde, elle avait la chiasse. La France profonde, elle pensait surtout à trouver quelque chose à bouffer. La France profonde, elle avait 1,5 million de prisonniers de guerre. Il y avait la chasse en même temps aux gaullistes, aux communistes, aux francs-maçons, aux avorteuses qu'on guillotinait éventuellement. Tout le monde avait la trouille de tout le monde, et puis les juifs là-dedans, ça ne pesait pas le goût. Je crois qu'en disant ça, j'essaye de ne pas être excessif, parce que c'était peut-être plus grave que ça.